Donc ça, c'est un instrument donc qui fonctionne. C'est une double guitare hein, avec un seul corps de l'instrument. Donc c'est pas séparé en deux. Hein. Donc c'est un instrument pour deux interprètes gaucher droitier. Et donc tous les instruments en fait que je réalise sont bien sûr fonctionnels et les musiciens peuvent tout à fait les utiliser. Ce que je fais dans le cadre des performances. Donc ça, c'est une œuvre, une sculpture sonore réalisée à partir de carton de tapisserie jacquard, hein, donc de carton perforé, et où là, j'ai fait retranscrire les perforations du carton de tapisserie, donc qui constituent normalement les motifs du tissage, donc sous la forme d'une partition. Cette même partition a servi de modèle. Donc ça, c'était à partir de 2008 pour la réalisation d'une boîte à musique qui, quand elle fonctionne, enfin, elle est déclenchée, diffuse la mélodie des motifs. Donc ça, c'est un autre film que j'ai réalisé, donc celui en 2010, toujours en collaboration avec les Tian. Et là, suite à des enregistrements que j'avais faits donc en République Touva, donc c'est en Sibérie de l'Ouest, au nord de l'Altaï, donc où je suis allé enregistrer les bourdons harmoniques, dans les steppes. Alors, ce qui m'intéressait là, c'est ce rapport aussi à la langue, à la musique et au sifflement, mais c'est les bourdons harmoniques en fait sont souvent pratiqués par les chamans donc ils considèrent qu'ils sont des corps conducteurs un peu comme des sortes d'antennes radio et les fréquences qu'ils émettent sont finalement très très proches des fréquences radio. Ce qui est intéressant là, dans ces bourdons harmoniques, c'est aussi que ces corps conducteurs sont aussi des corps instruments, ils considèrent que ce sont des instruments, et que le son, ils sont l'intermédiaire entre la terre et le ciel, et ce corps conducteur instrument en fait fait communiquer l'espace terrestre et l'espace céleste. Donc ça, c'est aussi un autre film donc l'a réalisé dans à Sedan à partir de cette manufacture de tapis donc qui avait été abandonnée. Et donc dans laquelle aussi j'ai récupéré donc ces fameux cartons de tapis. Ça, c'est une œuvre silencieuse, hein, un clavier réalisé à partir de 70 livres sur lesquels j'ai dessiné sur la tranche les touches du piano. Ça, c'est un autre film. Ça, c'est une œuvre qui est réalisée dans le cadre du 1% artistique en région centre. European Melodic Parliament. C'est une œuvre pérenne constituée d'un mur perforé qui sert de nichoir pour les oiseaux migrateurs sur les bords de la Loire. En fait, il y a deux portées. Qui sont visibles ici, qui sont des câbles métalliques tendus. Les perforations que vous voyez qui communiquent avec les nichoirs du dos du mur, en fait, semblent être des notes qu'on peut lire, mais en fait, j'ai relevé les constellations d'étoiles qui servent de guide et qui sont suivis par les oiseaux migrateurs pour arriver jusque sur les bords de la Loire, hein, depuis l'Europe centrale.
Et là, tu as vu le résultat donc les oiseaux qui se
Oui.
nichent dans
Voilà. Donc il y en a. Bon, en même temps, là, je l'avais vu un an après. Donc, il y avait quand même quelques nids. Mais en fait, il y avait surtout des oiseaux, des oiseaux des jardins qui s'étaient nichés là-dedans.
Et qui chantent.
Et qui chantent, oui. Donc ça c'est Trax Prosody, donc c'est encore un componium, une boîte à musique, où là c'est un ruban de 10 mètres perforé avec les paroles traduites en phonétique par les ornithologues du chant des oiseaux, et quand ces perforations passent dans le componium, en fait les mots génèrent, donc les mots de ces traductions génèrent des mélodies. Ah, en fait, depuis, donc je suis sans arrêt dans des recherches en même temps de translation, de traduction entre des formes écrites, donc de langage parlé, du langage musical, de toutes les correspondances possibles dans les formes d'écriture. Donc ça, c'est une vidéo que je vous montrerai après. Ça, c'est une œuvre Soundscape Box, donc 2012. C'est une chambre anéchoïque, donc avec un son spatialisé à l'intérieur, où était diffusé le son des bourdons harmoniques qui tournent en continu. Une composition ici avec des fréquences radio.
C'est pas ce qu'on appelle une chambre.
C'est une chambre sourde. Donc ça, c'est une installation que j'ai faite au château de Saint-Ouen, là en fait j'ai réalisé un instrument à l'échelle d'un écran, alors un instrument de corde comme une harpe qui sert en fait d'écran de projection, et en fait quand on peut jouer avec l'écran où chaque série de 10 cordes est amplifiée avec des fréquences sonores et des harmoniques, et donc c'est la bande son du film, elle est par le toucher en même temps de l'image et de l'écran qui fait instrument. Et puis à droite j'ai refait une machine avant, et qui était un instrument qui était utilisé dans les théâtres jusqu'au début du siècle pour tous les bruitages. Et donc là, j'en ai reconstitué une. Là, ça, c'est une autre vidéo que je vais vous montrer après. Ça, c'est donc deux autres sculptures. Ça, c'est un salon de musique. C'est une architecture sonore réalisée à partir de panneaux de bois. Tout est articulé, tout se plie. Et un peu sur le principe des salons de musique en Inde. Car après j'ai fait une série d'enregistrements et de travaux en Inde autour des instruments parlants. Alors les instruments parlants, ce sont les instruments à percussion ou à vent utilisés dans certaines communautés pour pouvoir communiquer aussi à distance, mais qui ne sont pas à proprement parler des instruments mélodiques, mais en fait qui sont comme les mridangam en Inde, permettent de traduire la mélodie en fait de la langue. C'est ce qu'on entend dans la musique carnatique avec les mridangam, donc les percussions, parce que les percussions se parlent les unes avec les autres et se racontent des choses. Ça, alors c'est un tapis symphonique. Là, j'ai travaillé à partir, j'ai refait plein d'expériences, à partir des expériences de Clanny. Clanny, qui est l'ingénieur, on va dire, père de l'électro-acoustique, et donc qui avait découvert que le frottement de cordes et des vibrations du son dans la matière génère des formes géométriques. Et donc là, j'ai réalisé un tapis un tapis qui est où sous chacun des carreaux il y a un haut-parleur à membrane, un excitateur audio plutôt, qui diffuse des fréquences et génère ces formes géométriques qui sont réalisées à partir de sable qui se déplace à la surface donc du métal. Ce qui était intéressant là, c'est que en fait, on va retrouver dans ces formes géométriques complexes ou simples, en fait, les mêmes formes géométriques qui peuplent toute l'histoire en fait du motif des tapis persans aux façades des mouches arabiers, dans toute la pratique en fait millénaire ancestrale du motif. Finalement à une dimension sonore. À partir plâtre, de stuc, dans lesquels, au moment de la prise du plâtre, j'ai envoyé des impacts sonores, donc avec des haut-parleurs assez violents, et ce qui a en fait figé et déformé la matière. Qui donne cette série là. Donc c'est des paroles pétrifiées en fait. Parce que c'est les sons en fait. Je parlais, c'était amplifié très très fort dans la matière au moment de la prise. Donc ça c'est brise. Hein, donc c'est un spectrogramme de papier réalisé à partir d'un verre de Mallarmé. Donc ça, c'est une œuvre, donc stanza, réalisée en scagliola. Donc c'est une technique de marbre reconstitué, donc qui date du XVIIe siècle, qui est pratiquée en Italie. 16e et 17e, qui est aussi solide que du marbre, réalisé donc avec des plâtres, de la chaude et toute une série de matériaux complètement naturels. Et à partir du moment où on peut quand même maîtriser les flux, les formes, les motifs en fait. Réalisé là donc en marbre le spectrogramme du son des vibrations de la terre qui sont diffusées à l'intérieur de la pierre et qu'on peut entendre quand on est couché dessus. Et donc cette dalle, elle reprend le format soit d'un tatami, soit d'une dalle mortuaire. Donc en même temps, quand on voit les visiteurs qui l'utilisent, donc c'est entre le modèle et le modèle vivant et la statuaire. En même temps, quand on la regarde, donc ce qu'on voit, c'est ce qu'on n'entend pas, et ce qu'on entend, on ne le voit plus quand on est allongé dessus. En même temps, le scagliola, c'est une, ils appellent ça en Italie la pierre chaude. C'est-à-dire que s'il y a une réaction chimique aussi qui fait que ça absorbe la chaleur du corps. Donc
en fait, c'est un peu le même principe avec la vidéo où on entend le son en grattant les cordes. Puisque si on est.
Oui, oui, oui. Voilà. On a plus la vidéo. Et là, quand on entend le son. Donc effectivement, on ne voit plus l'image. Donc ça, c'est un mur, selon le même principe là, que j'ai présenté dans le cadre de la triennale de Vendôme là, cet été. Et donc, où là, ce sont les sons des cours d'eau et des chutes d'eau que j'ai enregistrées dans la ville de Vendôme. Qui ont généré ces formes de dispersion et de flux de la matière, et c'est ces mêmes sons qu'on entend à l'intérieur du mur. Alors, ce qui m'intéressait aussi là, hein, c'est que la position du modèle ou de celui qui écoute, donc elle fait partie en même temps de l'œuvre pour celui qui regarde. Donc c'est entre le condamné et en même temps celui qui écoute.
Quel matériau ?
Pareil, c'est en scagliola. Donc ça, c'est une tapisserie architecture sonore, donc réalisée dans le cadre d'un appel à projet, hein, donc à Aubusson, donc qui a reçu le grand prix de la Cité internationale de la tapisserie, et où là, c'est un spectrogramme obtenu à partir d'enregistrements de chants d'oiseaux et de paroles sifflées. Alors le chant des oiseaux, je les ai récupérés. Donc j'ai regardé toute l'histoire de la tapisserie d'Aubusson, je me suis aperçu que toutes les tapisseries étaient peuplées d'oiseaux, donc forcément silencieux. Qu'ensuite je suis allé enregistrer, ce sont des oiseaux des jardins, hein, des mésanges, des mères là. Donc je les ai enregistrés, fait ma composition sonore plus des dialogues sifflés. J'ai obtenu ce spectrogramme noir et blanc que j'ai aussi retravaillé et qui a servi de carton pour la réalisation de la tapisserie. Donc là qu'on voit. Et donc c'est une architecture dans laquelle, tissée en recto verso dans laquelle on peut rentrer. Donc là on voit l'intérieur. Donc, donc là c'est un panoramique qu'on peut percevoir quand on est à l'intérieur. Donc il y a une lumière noire, hein, qui la tapisserie est recto verso mais en noir et blanc, et là la lumière noire à l'intérieur permet voir cette dimension nocturne. Là on peut voir la totalité du panoramique, alors que quand on est à l'extérieur on est obligé d'en faire le tour. Ça fait 2,50 m de diamètre et 2,50 m de haut, et c'est sonore aussi. Parce que là, ce que l'on voit, c'est ce que l'on entend dans la tapisserie. Et puis, ça, c'est l'exposition actuellement présentée donc, au Centre d'art contemporain Château des Adhémar de Montélimar jusqu'au 28 février. Donc là, ce sont une sélection d'œuvres donc anciennes et très récentes. Donc qui sont présentés. Donc là je vous montrerai après la vidéo, donc qui était là à l'accueil. Et donc ça c'est la grande installation, donc qui s'appelle Weird Wind Song, qui a donné aussi son nom à l'exposition. Donc c'est un plancher donc amplifié, un plancher aussi partition, donc qui fait 78 mètres carrés de surface. Qui est c'est un plancher, une partition, mais aussi un clavier. Donc, il y a 20 sources sonores qui sont sous les lames, hein, comme des lames de piano. Et donc, quand on se déplace à la surface de ce plancher partition, en fait, on va déclencher les sons. La vidéo qui est présentée en face, donc, fonctionne effectivement aussi en vis-à-vis avec ce plancher, donc là où les instruments ont disparu, puisque ce sont finalement les visiteurs et les participants qui génèrent le son et les instruments. Enfin, c'est aussi un instrument. Et donc là, je suis allé filmer au Japon, donc le tourbillon de Naruto, qui a donné son nom au fameux manga. Mais qu'on peut voir aussi ce tourbillon dans toute l'iconographie de Kusai, c'est l'endroit au Japon où donc il y en a trois dans le monde comme ça, où il y a un tourbillon qui se forme deux fois par jour mais qui fait 35 mètres de diamètre au moment des changements des marées. Et qui a la particularité d'émettre, et c'est pour ça que ça m'intéressait, un son. Ils appellent ça aussi la voix de Naruto. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé filmer le centre de ce tourbillon. Donc, de façon assez récente, hein, parce que c'était là au mois de septembre, et l'expo a commencé fin octobre. Et donc, on entend donc le chant, en fait, les fréquences de ce tourbillon dans l'installation. Donc, le film dure 19 minutes, hein, c'est qu'un long tourbillon que j'ai filmé de l'extérieur et puis du dessus. Et là, ce qui m'intéressait là, c'était aussi les voix des turbulences. Donc là, on voit. Donc ça, c'est de l'autre côté du voilà. Là, c'est une toile flottante. Donc qui est animé ce rideau en triptyque là, par un ventilateur et qui a été réalisé selon la technique du shumenagashi, donc de l'encre flottante et qui est entre le paysage et le fragment de spectrogramme et qui est une sorte de souffle flottant, là on voit le. Voilà. Donc là on voit la partition gravée, enfin sculptée dans les lames. Alors ce plancher, il s'inspire en fait du plancher du palais de Nijojo, donc de Kyoto. Que j'avais découvert et qui s'appelle aussi le plancher rossignol et donc qui a été construit au 13e-14e siècle et qui a la particularité d'avoir été conçu pour ce palais comme une sorte de système d'alarme complètement mécanique où dans le palais en fait il y a un système de visserie qui fait que quand on marche sur les lames ça déclenche en fait des sons qui ressemblerait au chant de rossignol. Et c'était un moyen, en fait, d'entendre les intrus qui pouvaient pénétrer dans le palais. Donc, forcément, ce plancher rossignol, ça m'a tout de suite intéressé. Et il ne s'agissait pas pour moi de reconstituer ce plancher, mais plus de le transformer en vrai instrument qui permettent en même temps que le déplacement du corps puisse générer un son depuis le sol et cette partition. Donc on a réalisé deux concerts performances dessus. Donc voilà, ça c'est une œuvre sonore aussi. C'est qui s'appelle, ils s'intitulent les pavillons. C'est des pavillons que j'ai réalisés en céramique, qui diffusent le son du chant du vent que j'ai enregistré autour du château des Adhémar. Donc où il y a, après j'ai retravaillé bien sûr ces enregistrements et donc là on entend 5 voix du vent. Alors ça, c'est une œuvre. Ah ça, c'est très.
Juste du coup, les formes, elles ont été conçues en. Parce qu'elles sont toutes différentes.
Oui.
Elles ont été conçues de manière aléatoire.
Ah non, en fait, moi je les ai dessinées. C'est grand, hein. Ça fait 80 cm pour les plus grandes de 80 aussi. Donc moi, je me suis inspiré pour ça. De collections de pavillons de gramophones ce qui m'intéressait là c'était de le son que ça allait générer. Donc il y a des petits haut-parleurs à membrane qui sont collés donc à la sortie du pavillon et donc on a un son qui est quand même assez dur à la sortie mais qui me semblait aussi intéressant. Et si j'ai choisi de faire ça, c'est parce que par rapport aussi à l'exposition, à tout ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette relation au tourbillon, c'est que le potier qui les a réalisés, parce que ça, c'est juste impossible à faire, et donc que j'ai filmé aussi, Donc on part d'un tas de terre absolument informe pour monter sous la forme d'un tourbillon ce pavillon, et qui me semblait une analogie formelle et même sonore qui était très juste dans le geste, hein, qui transforme la matière pour un pavillon d'écoute. Puis le pavillon, c'est aussi bien le pavillon interne, hein, que l'espace que l'espace de vie. Et donc ils sont tous différents, tous des tailles différentes. Alors là, il y en a 5, mais j'en ai fait en fait 10. Et puis là, je vais faire une expo pour une commande que j'ai eue à la Maison des Arts de Bagneux en février. Et donc, il y en aura toute une autre série qui seront présentées et de formes différentes. Donc ça, c'est une œuvre qui s'intitule « Serinette ». Hein. Donc, il y a 4 poteaux qui sont des troncs d'arbres de pins que je suis allé choisir. Donc, en fonction des courbes qu'on voit ici, et donc qui sont les ondes, ce qu'on appelle les ondes de croissance des arbres à la naissance de chaque branche. Et donc moi, ce qui m'intéressait là, c'est que ces ondes de croissance, elles étaient très similaires aux ondes sonores donc j'ai travaillé ces troncs là, selon les mêmes techniques que les luthiers, pour faire monter les ondes du bois. J'ai perforé les naissances aussi de chaque branche, de façon à faire ensuite un relevé de toutes ces perforations, que j'ai ensuite retranscrite sur une partition, puis retranscrite sur une bande à musique, de façon à pouvoir entendre la mélodie des arbres. Voilà. Donc ça, c'est une autre partie. Alors ça, donc c'est une toile texte partition. Donc c'est un texte que j'ai écrit et dans lequel ensuite donc j'ai barré toutes les phrases pour en faire des sortes de lignes de portée, pour extraire toutes les notes de ce texte. Donc quand on lit le texte, on ne peut pas lire les notes et vice versa. Et donc j'ai fait interpréter ça pour deux voix, donc une voix qui lit le texte et une voix qui chante les notes extraites du texte, enfin de la partition. Je voulais peut-être vous faire écouter du coup ça de Serinette.
C'est
de l'encre de Chine, en fait.
C'est juste l'encre de Chine.
Oui, enfin, il y a 10 ponçages. Ça révèle en fait les ondes du bois.
D'accord.
Et alors. Là. Voilà.
Ah non, bon, c'est peut-être ça.
Il a repassé.
C'est le vidéo projecteur qui prend la main.
Donc là, je vais vous faire écouter, donc à partir de la partition, donc le morceau qu'on a fait à partir du relevé justement des serinettes, des arbres.
À la boîte à musique, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'après, on a réinterprété la partition du relevé des perforations, donc avec batterie. Non, là, il n'y a pas batterie, c'est vibraphone et guitare.
Quand on branche un HDMI, c'est le vidéoprojecteur qui prend le son, qui le monopolise. Il faut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on l'a débranché et qu'on l'a remis.
Donc, il faut que je refasse quoi ?
Dans les préférences système, c'est le HDMI qui monopolise la sortie son.
Donc, je vais dans son.
Oui, pareil tout à l'heure. Il y a les deux, vous voyez, le vidéo, et on remet sur écouteur.
Bon, après, on a bien sûr retravaillé, superposé, répété, fait les boucles, mais...
Choix de musique tonale, pourquoi ?
Parce que... je sais pas, par rapport à la boîte à musique...
Oui, c'est
pas la boîte. Je voulais quelque chose de vraiment comme ça.
Parce que c'est un langage aussi.
Oui, oui.
On comprend tout, c'est que...
Oui.
Mais c'est vrai que c'est...
Donc voilà. Ça, c'est une installation aussi vidéo et sonore, donc où j'ai couvert de plâtre donc le guitariste et le percussionniste. Et donc au fur et à mesure qu'ils sortent de la gangue de plâtre, donc où les morceaux de la gangue tombent, le son commence à apparaître. Et donc ça n'a pas, enfin, et en fait c'est comme deux statuaires. Hein. Et la hauteur de la projection fait à peu près 6,50 m Donc c'est des sortes de cariatides, mais des musiciens qui doivent tout détruire pour faire émerger le son.
Et ils jouent quoi ?
Et ils jouent, en fait, c'est une... on a commencé par le une, en fait, c'est une improvisation. Donc avec toujours des phrases mélodiques, on va dire, qui vont se répéter. Et c'est deux vidéos, en fait, qui sont projetées simultanément. Et donc, dans l'idée, c'est un peu comme pour les disques, la musique se fait de façon complètement aléatoire. C'est jamais la même chose. Et ça, pour terminer, donc ça, c'est un phylactère. Donc c'est un ruban de plomb. Qui a été poinçonné par une partition musicale en braille. Donc, ça s'intitule phylactère parce que, bien entendu, ça fait référence au phylactère, aux paroles des anges. Donc qu'on n'entend pas, qu'on ne touche pas et qu'on ne peut pas lire. Et donc cette partition en braille, c'est une retranscription des enregistrements du pulsar du voile, donc qui est de la musique, le chant des étoiles. Voilà. Et ça, c'est ce qui clôt le dièse, qui est une sculpture. Donc réalisé à partir d'archers tressés. Voilà, et donc la partition, c'est celle-là. Peut-être. Donc, on va terminer peut-être là-dessus. Peut-être là-dessus. Cette vidéo s'intitule Storm. Et puis.
Est-ce que vous pouvez nous faire écouter le chant de Naruto, justement, dont vous parliez tout à l'heure là ?
Le chant de Naruto, là, je ne l'ai pas.
Ah, d'accord.
Non.
Dans vos prises vidéo.
Là, et après, il sera le mois prochain sur le site. Donc, je vais mettre en ligne. Et donc, vous aurez les sons de la voix du tourbillon. Pour l'instant, il est au château des Annemars. Je le mettrai quand l'expo, en fait, elle sera terminée. Mm-hmm. Mais c'est jusque fin février, hein, l'expo.
Ouais.
Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Montélimar. Bon, après, ce qui est compliqué, de toute façon, dans ces installations, de toutes les grandes installations là, que j'ai faites, c'est que, je veux dire, après, les montrer, alors il faut les montrer toujours séparément. Ensuite, l'installation, comme pour la plupart, comme surtout pour le plancher, là, Grundsong, pour l'installation, il faut. Donc, c'est un instrument de musique, donc il faut. L'expérimenter et en jouer, et donc parce que c'est aussi ce qui, cet instrument, génère la bande-son aussi du film. C'est-à-dire, il y a la voix de Naruto, enfin du tourbillon, plus après la partie instrumentale qui est constituée par les fichiers qui sont dans l'instrument. Donc, c'est toujours compliqué de donner un résumé pour des choses comme celle-là qui ne pourraient être finalement communiquées que sous la forme de documents, puis ça n'a pas tellement de sens. Puis là, je suis obligé à chaque fois de tout séparer, parce que le mieux, c'est quand même quand on est en immersion dedans. Parce que toutes les œuvres, en fait, les installations que je fais, comme ça, c'est vraiment pour faire cette expérience de l'immersion totale, et visuelle et sonore, que ce rapport au corps est vraiment important.
Moi, j'avais une petite question sur le mur, où on est obligé de s'approcher pour écouter le son.
Oui.
C'est une question... le spectateur, il est invité à le faire, ou est-ce qu'on entend déjà quelque chose qui nous permettrait de s'approcher,
ou... On entend, mais c'est vraiment très très faible. C'est une sorte de tout petit cliquetis. Il faut que le silence soit absolu tout autour. Sinon, on n'entend pas. Mais en même temps, c'est un mur qu'on doit aussi toucher, parce qu'il y a un côté très tactile et sensuel. C'est-à-dire parce que le scagliola, en même temps, c'est réalisé donc avec ce que je vous ai dit, là, le plat, mais après, c'est ensuite lissé donc avec des cires d'abeilles. Donc, c'est très, très doux. C'est une sculpture vraiment à toucher. Et donc, souvent, en fait, les gens y allaient, touchaient et puis se collaient. Parce que là, quand on est tout près, on commence à entendre qu'il y a des choses dedans. Mais en même temps, là, ce qui m'intéressait aussi, c'est que ce soit aussi un mur. C'est-à-dire, peu importe, il y a des gens qui ne le voyaient pas du tout, hein, qui passaient à côté, ils ne voyaient pas l'œuvre. Mais ça fait partie de l'œuvre, de disparaître en même temps, comme ça.
Et puis c'est la même chose pour la vidéo avec les corps.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a toujours ce rapport au toucher, à la manipulation comme à l'instrument. C'est-à-dire, on voit un instrument, on a forcément envie d'aller le toucher. C'est comme une sculpture, on a envie de toucher. Après, même temps, même dans les installations et tous les dispositifs, là, moi je les conçois comme des espaces complètement ouverts et les gens sont libres d'y aller, de rentrer ou pas du tout. Je veux dire, je fais toujours très attention qu'il n'y ait jamais cette dimension autoritaire. Comme peut y avoir parfois sur des pièces interactives, c'est-à-dire c'est soit on y va, soit on n'y va pas. C'est après, pas.
Après, les codes du musée font que c'est vrai que pour ce genre de pièces, on a l'habitude au musée de ne pas pouvoir toucher, de ne pas pouvoir. C'est pour ça que.
Oui, mais dans cette relation aussi à l'instrument et à la musique. On est pour les musiciens, pour les il y a ce rapport aussi quand même au toucher de l'instrument, de la manipulation, c'est aussi indissociable, enfin pour moi.
Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie question pour nous aussi qui mettons en place des dispositifs artistiques et des œuvres, que de se dire comment ce que dit Elsa, moi ça m'intéresse vachement dans le sens comment à un moment on peut se permettre ça et comment on le communique à un public qui a l'habitude du code de musée où on dit tu n'as pas le droit de toucher.
Oui. Alors, là, en fait, c'est sur les cartels, il y a marqué toucher.
D'accord.
Oui. Il y a quand même.
Oui, mais il faut toucher.
Oui, d'accord.
Donc là, c'est peut-être effectivement autoritaire de dire toucher, mais bon, après. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé de vous faire un panorama, un sonorama synthétique, hein, parce qu'il y a des tas de choses dont on n'a pas parlé.
Donc en fait, c'est issu de votre livre, son avis,
là. Oui, oui.
Ce qui est frappant, là, dans le panorama, c'est que, en fait, tu es vraiment allé au son en tant que sculpteur.
Enfin, oui.
C'est voit que dans ta poétique, bon, l'immatérialité, elle est là constamment. Tu as toujours été dans des formes, la recherche de formes immatérielles, bon, y compris d'ailleurs dans les titres, enfin, du point de vue conceptuel, les questions de formes immatérielles, du ciel, des étoiles. Et puis en même temps, tu fais preuve, et là je pense que c'est le travail de du sculpteur, la sculptrice, tu fais preuve d'une très grande curiosité pour les matériaux. C'est en étant des matériaux qui est vraiment très étonnante, enfin, c'est même assez audacieux, tu es toujours allé vers des matériaux auxquels on ne pas forcément.
Oui, mais par exemple.
Cette dichotomie matériaux-immatériel.
Bah, oui, vraiment. Et puis effectivement, tout à l'heure, quand on parlait du toucher, finalement, c'est à l'œuvre depuis toujours. Et les matériaux, c'est ça aussi, ce choix, que ce soit les bois, les marbres, c'est physique, c'est charnel. Donc, comme le son peut l'être, il nous habite complètement, la musique. Il y a un côté qui est très physique, hein, et dans le son et dans la sculpture. Et ces matériaux, que ce soit le bois là avec mes ondes de croissance, ou en fait, je vais les choisir tous ces matériaux dès que j'y vois du son. C'est-à-dire que dans le marbre, le scagliola, je regarde le marbre, j'y vois du son. Je détecte des formes sonores, comme là dans les tapis, dans les motifs maintenant. Dès que je vois des motifs, des tapis persans, j'y vois tout de suite des fréquences auxquelles ça peut correspondre dans l'architecture aussi. Et dans le bois, là, j'ai vu ces troncs de pins d'Isère, là. Et j'étais subjugué, parce que je me disais, il y a vraiment c'est plus qu'une équivalence. Hein, parce que c'est des ondes de croissance, des ondes sonores, des ondes lumineuses. On est dans une vibration qui est générale. D'où l'intérêt et la fascination de toutes ces matières.
Alors, du coup, ce que tu as parfaitement tout expliqué, la seule chose peut-être qu'on ne comprend pas, c'est au début des années 90, qu'est-ce qui te fait passer de la photographie ou de la sculpture, qui a priori, en cette période-là, c'était pas très évident, les travaux de sculpteur en lisant avec le son, qu'est-ce qui te fait passer au son, donc au tout début des années 90?
Ben justement, cette question que... peut-être que la sculpture, elle lui manquait cette dimension, une autre dimension, et effectivement qui était immatérielle. C'est-à-dire entre le poids des matières et des matériaux et l'immatérialité et du son. C'est sans doute par là que je suis arrivé à chercher à combiner ça. Et puis à trouver, comme je l'ai fait après, dans les systèmes d'écriture et tout ça, des moments de rencontre impossible entre ces différentes formes d'écriture et formes de perception en même temps. Parce qu'il y a des équivalences, mais qui sont... souvent impossible. C'est comme tout à l'heure quand je parlais de la langue sifflée qui ne se chante pas. C'est un peu pareil. J'ai répondu à ta question.
Oui, connaissant le travail, j'ai aussi le revenu.
Non, pardon, moi j'ai pas forcément de questions. Enfin, c'est juste des. J'ai beaucoup aimé en fait toutes les parties où il y a une interaction aussi directement avec le monde animal. Enfin,
oui.
La toute première que vous avez présentée avec le miel, voilà, sur.
Ah oui.
C'est une sculpture qui attire en fait, mm-hmm. une forme sonore dont vous n'avez aucune maîtrise.
Enfin, ah oui, oui, oui.
Cette partie-là. Et puis
de toute façon, même avec les perruches ou avec les canaris, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien, c'est que je ne maîtrise rien du tout dans leur comportement, dans leur déplacement, dans les sons, les endroits où ils vont se positionner. Et donc, c'est ça en même temps qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est tout ce qui échappe. Dans ce type de dispositif, enfin moi en tout cas ça m'intéresse, comme le plancher là que je viens de faire où finalement une fois que l'instrument il est là en place, ça m'échappe ce qui se produit, parce qu'il y a des gens par exemple j'ai vu qui restent sur un endroit, une lame, et qui vont pendant 10 minutes répéter le même son, mais pourquoi pas. Je pense que c'est bien qu'il y ait des choses qu'elles échappent, de ne pas tout contrôler. C'est-à-dire, c'est peut-être à l'opposé finalement d'un chef d'orchestre. De toute façon, même quand on fait des performances avec les musiciens, donc moi je leur écris des partitions qui ne sont pas du tout musicales, hein, qui sont des dessins et des intentions et des lignes des programmes donc ce que j'aime c'est quand ça ils prennent aussi la chose en main et que il y a une trame toujours et puis après ça m'échappe et c'est ça qu'il y a de bien.
Les vrais bons chefs ils laissent échapper aussi, ils profitent de ça.
Oui mais moi je suis pas musicienne parce que ça c'est important.
Ah oui ça prend. Pas de rapport à la musique a priori.
Qui ?
Pour vous, dans votre parcours au départ.
Sauf mon prénom. Oui, puis en même temps, je pense que j'aborde la question musicale, pour le coup, avec les compositeurs ou bien avec les musiciens d'une autre manière. C'est-à-dire, je ne l'écris pas, je n'ai pas de parcours musical. Par contre, j'entends, je sais ce que je veux, enfin, quel type de son, de composition, comme pour la sérénette. J'avais quand même, malgré tout, une idée assez précise de...
Oui, c'est une relation intime.
Oui. Voilà, et après, ces compositions, je veux dire, comme pour la sérénette, là, ça se fait, mais on discute beaucoup. Je dis, ah ben non, pas ça. On recommence, on va faire autrement. Et du coup, comme je n'ai pas de formation musicale, je suis décomplexé et complètement libre vis-à-vis de ça, ce qui énerve souvent les compositeurs, parce que je leur dis « Oh, bah, tiens, sur vous, c'est ça. » Et donc, c'est pour moi très, très agréable. C'est-à-dire, je n'ai pas de contraintes et tout est possible, c'est comme avec les matériaux ou avec les instruments, parce que je fais des doubles guitares, je fais des instruments verts, je suis... pas de contrainte. Alors après, la contrainte, c'est effectivement les interprètes qui l'ont. Parce que pour jouer de la batterie, là, c'est un vrai performeur, hein, parce que il est dans en même temps la puissance, le coup, mais aussi la retenue, parce qu'il y a toujours un moment donné où tout risque de tout exploser. Et en même temps, il joue, vous l'avez entendu, hein, super fort. Donc voilà.
Il y a une étape dont il n'y a pas énormément parlé, c'est le. Je crois que ça intéressera un certain nombre d'entre vous, c'est entre la sculpture et l'aspect musical, entre guillemets, des pièces des années 2010, avec des instruments, il y a quand même le sas. Tu dis que tu n'es pas compositrice. Oui, et le sas, c'est peut-être quand même la poésie.
Parce qu'il y a ah oui, l'écriture et la poésie, ça oui.
A été très
ça
présente.
Oui. Elle l'est toujours.
Elle est toujours, mais il y a eu un moment où les titres étaient extrêmement travaillés, les concepts étaient vraiment très, très posés. Bon, on a vu des références à l'armée, beaucoup de références à la philosophie aussi. Enfin, le langage, Beckett, oui. Aussi, c'était une citation, enfin, une référence importante pour penser à la poésie de Tézel. Je pense que la poésie, la part sonore du langage, a été peut-être le sas entre la sculpture
oui.
conceptuelle
oui.
Et la musique.
Oui, alors, oui, c'est passé ça, effectivement ça, le, par la poésie.
Ça, c'est le fondu enchaîné, ce jour-là.
Tu as tout à fait raison. Parce que cette pratique de l'écriture, je continue à l'avoir, y compris dans le cadre des performances. Puisque là, ce sont des textes, on va dire des textes partitions que je demande aux chanteurs ou chanteuses d'interpréter, et où cette dimension poésie sonore, elle est, c'est vraiment le socle.
C'est des chanteurs ou des performeurs ou d'autres?
Chez Kobayashi, donc la mezzo-soprano avec laquelle je travaille, elle, c'est une vraie, vraie chanteuse.
Par exemple, pour la pièce où il y a à la fois le texte et à la fois les...
Là, il y avait deux voix. Il y avait en fait un performeur et la chanteuse. Parce qu'en fait, il faut que ce texte-là, il soit lu très, très, très rapidement, sans ponctuation et en continu. Et en fait, le texte après, il est... interprété et en français. Après, la chanteuse japonaise le réinterprète en japonais. Et donc, tout se superpose, se remélange. Parce que ce principe de répétition, de superposition des voix m'intéresse aussi à partir du moment où, quand le sens de la langue disparaît, là, il y a vraiment la dimension musicale. Par rapport à la voix. Et c'est ça qui m'intéresse.
Il y a une entrée dans ton travail qui est l'interprétation, comme tu le dis tout à l'heure, mais c'est vrai que l'interprétation, c'est au fond, elle est active sur les pièces musicales et sonores, et aussi quand tu collabores avec les savoir-faire.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, pour la tapisserie. Oui, et où effectivement je délègue. C'est-à-dire qu'en travaillant avec des lissiers pour la tapisserie ou des souffleurs de verre pour les instruments de musique ou des interprètes, des... À ce moment-là, aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est ce qui échappe et c'est ce qu'on donne à l'autre comme responsabilité, enfin, et comme part. C'est-à-dire, il fait partie complètement de l'œuvre. Comme les après, de toute façon aussi les spectateurs. Hein, je veux dire, où ils sont en part et ils font.
La collaboration, c'est quand même relativement rare.
Oui, mais c'est vrai que moi je viens aussi de cette génération-là. C'est-à-dire avec beaucoup de projets collectifs, collaboratifs. Voilà, c'était quand j'étais étudiante, les années 80. C'est ça, et en même temps, c'était générateur de tellement d'énergie, de possibles, que cette chose-là, de toute façon, je souhaite la garder. Et puis, c'est sans doute aussi la raison pour laquelle j'adore aussi faire mes concerts performances. Là. Parce que c'est un moment, surtout avec la musique, de partage qui est tellement extraordinaire et puis que j'ai confirmé aussi. Je veux dire, même quand on parle par la même langue, hein, donc que ce soit en Chine, donc en République Touva, où on n'a pas besoin de parler. Alors finalement, c'est de la musique, le son. En Inde, pareil, c'est assez extraordinaire, ce pouvoir. De la musique et du son. Et alors, je vais peut-être terminer par un petit truc là, que j'avais fait justement en Inde, où là, c'est que sonore. Où donc, j'ai écrit un texte. C'est un morceau qu'on a enregistré donc, en studio, donc à Madras, avec deux musiciens, donc un joueur de mridangam et un de violon. qui sont des musiciens qui pratiquent la musique traditionnelle, mais qui aussi ont beaucoup collaboré donc avec Weezer Report et plein de groupes. Et donc, je ne voulais pas, de toute façon, c'était pas très compliqué, qu'ils parlent français, donc j'ai écrit le texte. On était dans le studio, j'étais séparé, donc je lisais le texte avec un débit assez rapide. Donc ils l'avaient dans les oreillettes. Et puisqu'ils utilisaient, c'est la raison pour laquelle aussi ça m'intéressait, ces instruments parlants comme le mridangam, donc ils ont fait une interprétation complètement musicale et sonore de mes paroles. Mais c'est une sorte de traduction miroir en fait. Et pour ça, effectivement, il ne faut pas comprendre la langue, parce que dès qu'il y a le sens, la dimension musicale, elle disparaît. Et donc, voilà, on a fait ce morceau. Alors là, on n'entend pas ma voix. On entend simplement dans ce morceau de violon mridangam l'instrument parlant, qui finalement traduit ce que je suis en train de dire. Mais là, c'est en musique. Thank you.
parlé de traduction miroir, tu as employé plusieurs reprises ce terme. Quel sens tu lui donnes?
C'est aussi en référence par rapport à la langue sifflée. Donc, puisque c'est une langue miroir, puisque c'est une amplification mélodique de la langue, et que là, on est aussi dans un rapport, on va dire, de traduction, qui est en miroir par rapport à une mélodie, en fait, qui fonctionne exactement de la même manière. Entre la musique, les interprètes, et là, moi, ma parole. Puisque, en fait, moi, je ne chante pas du tout, hein, quand ils ont le texte dans leurs oreillettes.
Entendre la musique des mots.
Voilà, ils m'entendent. Et donc, après, c'est une équivalence mélodique à ce que je suis en train de dire. Mais,
Et pour le langage sifflé, le terme de traduction miroir.
Ah oui, ça, c'est scientifique, en fait. Ça s'appelle les langues miroirs. Voilà, c'était bien de terminer là-dessus, sur ce petit morceau.
Merci.